Merci. Alors, ça me fait plaisir de me trouver parmi vous et merci pour votre accueil. J'espère que vous ne serez pas déçus après tout ce qui a été dit d'élogieux sur moi. Voilà, alors je voulais commencer par un petit quiz. Est-ce que vous savez quelle est l'image la plus utilisée dans l'Ancien Testament pour parler du peuple de Dieu ? Le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Petite idée. Le troupeau. Ah, bien. Il y en a d'autres, en fait. Mais effectivement, le troupeau de Dieu, il y a une vingtaine de textes et c'est l'image la plus utilisée. Mais il y a aussi l'épouse, il y a aussi le reste fidèle à Dieu, il y a aussi la vigne de Dieu. Et puis dans le Nouveau Testament, quelle est l'image ? Les images. Oui ? Le temple, oui. Le corps, voilà. Mais vous êtes trop fort. Parce qu'on retrouve les mêmes images que dans l'Ancien, mais c'est vrai que les deux nouvelles images qui apparaissent dans le Nouveau Testament, eh bien, c'est la maison de Dieu où habite son esprit, image qui s'inspire du temple de l'Ancien Testament, et puis, bien sûr, le corps du Christ. Une image radicalement nouvelle que l'apôtre Paul affectionne tout particulièrement et qui se trouve justement dans notre passage d'Éphésiens, dans notre texte d'Éphésiens que nous allons lire ce matin, Éphésiens 4. Alors je vous invite à lire les versets 1 à 16 dans Éphésiens 4. Et je lirai dans la version second 21. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous. Il agit à travers tous et habite en tous. Cependant, à chacun de nous, la grâce a été donnée à la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs. Il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions les plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. On retrouve cette image du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons tous à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et il s'édifie lui-même dans l'amour. Alors on a un de ces beaux textes bien denses de l'apôtre Paul comme il a l'habitude de les écrire. Vous l'avez vu dans les trois premiers chapitres, eh bien l'apôtre Paul décrit ce salut merveilleux que Jésus-Christ a accompli pour nous. Et puis, Paul montre l'ampleur de ce salut qui nous réconcilie avec Dieu, bien sûr, mais qui unit aussi les croyants d'origine juive comme d'origine païenne. en un seul peuple de Dieu, le corps de Christ. Il n'y a plus de haine entre nous, entre les peuples, plus de révolte contre Dieu. Jésus-Christ a tout pacifié, ce qui est en haut, ce qui est en bas, le passé, le présent, l'avenir. Bref, tout est soumis à l'autorité du Messie et c'est la grande proclamation de ces trois premiers chapitres. Et voilà, au chapitre 4, le ton change, parce que Paul s'intéresse maintenant à la mise en pratique de ce salut. Parce que la foi, c'est pas juste un concept intellectuel, hein, non ? Littéralement, Paul dit au verset 1, « Je vous encourage à marcher. » Il y a du dynamisme, hein. Il nous faut aller de l'avant, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés. Jésus nous a fait un énorme honneur en nous appelant à lui. Alors il ne suffit pas juste de répondre oui du bout des lèvres. Il nous faut aussi marcher, aller de l'avant. Il y a du dynamisme. Et c'est-à-dire, marcher, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire se comporter, agir selon Jésus-Christ, en avançant les yeux fixés sur lui et en nous soumettant bien sûr à son autorité. Alors comment marcher ? Eh bien, l'apôtre Paul nous le dit au verset 2, il s'agit de marcher en toute humilité et douceur. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement Jésus lui-même était doux et humble de cœur, c'est comme ça qu'il s'est comporté parmi nous. Et puis il nous faut aussi marcher avec patience, nous supportons les uns les autres dans l'amour. Et je vous l'ai mis sur un premier diapo, on le voit ici, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. Ces fruits de l'esprit sont indispensables. Avec patience, on attend la délivrance du mal, la pleine réalisation du salut, on attend la venue de Jésus-Christ. Et puis, pour ressembler à Dieu, eh bien, nous devons vivre dans l'amour. C'est ainsi que Jésus-Christ construit son corps. Verset 3, « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » La paix, encore un fruit de l'esprit. Alors il ne devrait jamais y avoir de guerre dans l'Église. Pourtant l'apôtre Paul reste réaliste, il sait bien que nous vivons dans un monde pécheur et que les querelles et divisions existent malheureusement. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste sur l'unité, il martèle 7 fois de suite. 7 fois de suite, 7 c'est la perfection, le chiffre 1. Un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Alors au verset 11, il va parler des ministères, comme on l'a lu, hein. Mais auparavant, l'apôtre Paul insiste lourdement sur l'unité. On l'a chanté tout à l'heure, ça faisait du bien aussi. Et ainsi, l'apôtre Paul écarte toute tentation de croire que la diversité des ministères pourrait permettre la division du corps de Christ. Aucun ministère n'est autorisé à se séparer pour se mettre au-dessus des autres, par exemple. Non, seul le Seigneur règne. Et nous sommes tous au bénéfice de sa grâce. Au verset 7, littéralement, Paul dit « À un chacun de nous a été donnée la grâce selon la mesure du don du Christ. » Il insiste en disant « À un chacun ». Il montre que nous n'avons aucun mérite parce que nous avons tous tout reçu par grâce. Chacun a reçu des dons. Alors oui, c'est vrai, la mesure n'est pas identique. Certains ont peut-être reçu 1, 2 ou 5 talents. Mais chaque talent est merveilleux. Celui qui n'a qu'un seul talent n'a absolument rien à se plaindre. Parce qu'il lui suffit de mettre son don en pratique et puis Dieu, dans sa bonté, le lui multipliera. Le problème, ce n'est pas le nombre de dons. L'important, c'est de se consacrer entièrement, de mettre toute sa vie au service du Seigneur et pour sa gloire. Alors Jésus, après avoir visité les régions inférieures de la terre, il a repris tout ce qui était à l'ennemi, tout ce que l'ennemi lui avait dérobé, puis il est monté au ciel auprès du Père, d'où il règne au-dessus de tout. Jésus est le chef de son Église. C'est lui qui la dirige, la nourrit, l'édifie, la fait grandir en force, en taille, pour qu'elle manifeste la gloire de Dieu. Il n'y a aucun autre chef pour rivaliser avec lui. Jésus est la tête de son corps. Il n'y a donc aucune gloire à tirer de nos ministères, de nos dons et de nos charismes. De même que Dieu est un dans la diversité, et bien de même l'Église est une dans la diversité des dons et des charismes et des ministères. Chacun a donc sa place dans l'unité du corps de Christ. Et on le voit au verset 11, Paul parle des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et enseignants. Ces ministères sont tous au pluriel. L'apôtre n'est jamais seul, à côté ou au-dessus des autres. Le prophète non plus, l'évangéliste non plus, le pasteur et enseignant non plus. Et je crois qu'il nous faut vraiment remettre en question l'image du pasteur qui décide tout seul à la tête de son église. Alors bien sûr, je caricature, hein, mais ces schémas sont quand même bien ancrés dans nos têtes. Et dans la communauté aussi, nous devons remettre en question la vision du pasteur homme à tout faire, sur qui on délègue et on met tout ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est tellement simple de faire comme ça. Mais quand le pasteur fait tout, eh bien, il risque de se séparer et de devenir autoritaire. Alors, il n'y a pas d'article devant enseignant au verset 11, ce qui suggère que le pasteur enseignant est un seul et même ministère. Et depuis le temps de la réforme, eh bien, ce ministère a eu tendance à prendre un peu toute la place, avec un seul pasteur, souvent rémunéré, à la tête d'une église. Et en lisant Éphésiens 4, on voit combien ce schéma est réducteur et appauvrissant. Le pasteur risque d'être trop seul et de tout faire, tandis que les autres membres n'exercent tout simplement pas leurs dons. Et ce serait un véritable appauvrissement. À partir du Nouveau Testament, eh bien, il est impossible d'établir un cahier des charges précis de chaque ministère, parce qu'il y a une certaine souplesse dans les titres, les rôles et le nombre de dons. Et alors, des fois, ça nous embête, parce qu'on aimerait bien que tout soit réglé comme du papier à musique, mais je crois que c'est vraiment une bénédiction. Parce que ça évite de nous sécuriser dans des cadres, des structures, des schémas de pensée, et ça nous rend libres de pouvoir, de temps à autre, remettre notre organisation, notre mode de fonctionnement, afin qu'ils correspondent toujours mieux, toujours plus au souffle de l'esprit dans notre réalité présente. Ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à toujours faire comme ça. Le Seigneur n'est-il pas libre de nous demander d'agir un petit peu autrement pour que notre organisation s'adapte toujours mieux à ses plans pour aujourd'hui ? On le voit par exemple dans Actes 13, au début du chapitre, c'est donc à Antioche. Les croyants ont dû s'adapter. Au verset 2 et 3, il est dit « Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. On voit dans ces versets la simplicité de ces croyants qui ont reconnu et envoyé deux frères dans leur ministère. Pourtant, ça n'a pas dû être facile de les laisser partir, parce que cette jeune communauté ne comptait que 5 prophètes et enseignants. En laisser partir deux, ce n'était pas très facile. Mais c'est en séparant cette équipe que le Seigneur a choisi de faire grandir et de multiplier son Église. Les croyants ont obéi au Seigneur. Barnabas et Saul ont laissé un certain vide. Il a fallu former d'autres personnes. Et voilà que celles-ci ont pu grandir dans leur foi. Accepter que le Seigneur remette en question notre organisation, eh bien, c'est aussi permettre à de jeunes ministères de trouver leur place et de grandir dans leur foi et dans leur service. Un mot encore sur les titres. Est-ce que ce sont des ministères, des charismes, des dons ? Alors, ministère vient du latin et signifie « service ». Charisme vient du grec et signifie « don de la grâce ». Aujourd'hui, on parle souvent de ministère lorsque la personne est rémunérée par l'Église, mais cette distinction n'a rien de biblique. On le voit par exemple dans la vie de l'apôtre Paul. Il a été soutenu par l'Église, mais il a aussi dû travailler pour subvenir à ses besoins. Et même dans notre texte, il n'est pas parlé de ministère. Il est dit que Jésus-Christ a donné des dons, verset 8, et au verset 11, ces dons, eh bien, on le voit, c'est des hommes, c'est-à-dire des apôtres, prophètes, etc. Le titre de ministre n'apparaît pas à côté de ce qu'on appelle parfois les cinq ministères. Vous avez peut-être entendu parler de cette théologie-là, des cinq ministères. En l'occurrence, là, il n'y en a peut-être que quatre. Et en fait, je crois que ce qu'on peut dire par rapport à ce texte, c'est que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les bergers enseignants ont tous un service lié à la parole de Dieu, à l'annonce de la parole de Dieu. On pourrait peut-être les comparer aux articulations du corps. Alors, c'est vrai, ces articulations sont importantes. Elles permettent les liens, elles favorisent le mouvement. Mais l'articulation du genou n'a pas plus de valeur qu'un pied, une main ou un œil. Hein. Le plus important, encore une fois, c'est que nous soyons trouvés fidèles dans le service que le Seigneur nous confie. Aujourd'hui, on propose partout des cours de leadership pour responsables d'église. Et je ne suis pas sûre qu'on enseigne toujours le plus important dans ces cours, c'est-à-dire que le ministère est un service, un don de soi à l'attention des autres et pour construire l'église par la seule grâce de Jésus-Christ, qui nous donne ses capacités d'agir pour sa gloire. C'est la théologie des chapitres 1 à 3. Jésus règne, il a tout mis sous ses pieds, et la conséquence logique, eh bien, maintenant dans notre chapitre 4, c'est que nous manifestions tous ensemble ce règne en entrant dans les services que Jésus a préparés d'avance. Il n'y a pas de moins bon don, parce que tous les dons servent à la gloire de Dieu et tous les dons sont merveilleux. Et dans ce contexte, eh bien, j'avoue que je suis un peu surprise que certains construisent toute une théologie des cinq ministères sur la base de ce seul verset 11. Mettre en avant cinq ministères, ça me semble dangereux parce que cela augmente le risque d'orgueil. Or, on voit que avant et après ce fameux verset 11, eh bien, Paul insiste sur l'amour, l'unité, la diversité du corps de Christ. Paul veut vraiment à tout prix éviter qu'on se glorifie de ses dons en se séparant des autres. Non, Dieu accorde ses dons pour qu'on travaille en équipe, en tirant tous à la même corde. Le but, verset 12, c'est de former les croyants aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Or, se focaliser sur cinq ministères, c'est tellement réducteur. Le Seigneur ne donne-t-il pas une riche diversité de dons et ministères à l'Église ? L'Esprit n'opère-t-il pas de multiples opérations au milieu de nous, comme Romains 12 et 1 Corinthiens 12 l'affirment ? En insistant sur cinq ministères, on risque d'évacuer les autres dons. Alors, c'est peut-être une réaction au manque de reconnaissance des ministères dont nous avons souffert dans les milieux évangéliques ou dans certains milieux en tout cas. Mais se centrer sur cinq ministères ne rend pas justice au texte biblique. Ce n'est pas à nous de déterminer quels dons et ministères on veut. C'est Jésus qui construit son Église comme il l'entend. Et notre tâche, c'est simplement de reconnaître ces dons et ministères, de les accueillir et de les encourager parmi nous, en laissant le Seigneur nous conduire selon ses plans et non selon notre propre « management » d'église, entre guillemets. Si, par exemple, Dieu nous demande de libérer des ministères pour des personnes, des dons pour un service à l'étranger, comme Barnabas et Saul, on l'a vu tout à l'heure dans Acte 13, eh bien, c'est vrai, ça créera ici un certain vide, un certain manque. Mais obéissons au Seigneur. C'est lui qui décide comment il veut construire son Église. Et si on regarde un petit peu la suite d'acte 13, on voit que Barnabas et Saul ont aussi été de puissants encouragements pour l'église d'Antioche. Parce que ces missionnaires sont partis, certes, mais ils sont revenus plusieurs fois pour raconter comment le Seigneur avait ouvert des portes à l'évangile, pour évangéliser les païens. Et puis ce témoignage a vraiment fortifié la foi des croyants de l'église d'Antioche. Alors on l'a vu, le but des dons et ministères n'est jamais de régner au-dessus des autres. Non, le but c'est que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous cheminons tous ensemble à la suite du Christ. C'est capital de le rappeler dans notre société si individualiste. Alors osons être prophétiques en développant les dons de chacun, mais aussi en développant l'unité de l'Église. Le Seigneur veut faire grandir chacun, chaque individu, mais aussi tout l'ensemble du corps, tout le groupe. Personne tout seul n'arrivera à la perfection de Christ. Aucun groupe tout seul qui aurait écarté ou laissé de côté des gens n'arrivera tout seul à la perfection du Christ. C'est tous ensemble qu'on y arrivera. Et j'ai même envie de dire qu'il n'y a que l'Église qui peut réellement vivre une telle unité dans la diversité. Parce que l'Église est à l'image du seul Dieu parfaitement uni, du Dieu un, mais divers en trois personnes. L'Église doit donc veiller à donner à chacun sa place. L'Église veille à encourager chacun à entrer dans ses dons pour que tous ensemble nous grandissions à la stature de Christ. Quelle magnifique perspective hein, d'être à la stature parfaite du Christ. Donc ça veut dire que ce n'est pas mon ego qui doit grandir, mais c'est le Seigneur en nous tous. C'est pourquoi je peux me réjouir des dons des autres et je suis ébahie de voir tous les dons que vous avez. Parce que à travers chaque don, à travers chaque personne, eh bien, je vois le Seigneur agir dans son Église. Et je peux rendre gloire à Dieu pour cette extrême diversité, cette extrême richesse, cette beauté de l'épouse qui se prépare à rencontrer son époux. Alors, toutes les dames ici qui se sont mariées, n'étiez-vous pas belles, pimpantes et toutes excitées le jour de votre mariage? Eh bien, c'est dans cette attitude-là que l'Église doit marcher, aller de l'avant, les yeux fixés sur l'époux qui est sur le point d'arriver. Alors une marche si enthousiaste nous délivre de tout esprit d'erreur, comme il est dit au verset 14. Et je relis les versets 15 et 16, mais en disant « La vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » On le voit, il y a deux mouvements, vers Christ et de Christ. Grâce aux dons et aux ministères reçus, eh bien, nous apprenons chacun et tous ensemble à marcher vers Christ, les yeux fixés sur lui. Et c'est ainsi que nous recevons de Christ la force pour grandir encore plus dans l'unité et dans l'amour. J'ai envie de dire que c'est le mouvement continu de l'amour. Plus on le donne pour servir le Seigneur, plus cet amour grandit en nous, tout simplement parce que Dieu est amour. Alors il nous faut conclure, mais au fond, je crois que c'est à chacun de nous de conclure pour soi-même. Et c'est pourquoi je vous invite à prendre un temps de silence en vous laissant trois questions à méditer. Est-ce que j'utilise mes dons pour attirer les regards sur moi ou pour glorifier Jésus-Christ le Seigneur? Est-ce que je pratique mes dons avec humilité, avec la douceur, la patience et l'amour du Christ? Est-ce que je me réjouis des dons que le Seigneur accorde aux autres pour se glorifier et unir son corps. Prenons un temps de silence. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que tu veux faire de nous une merveilleuse épouse, un corps glorieux à la mesure de ta gloire. Et Seigneur, oui, c'est vraiment enthousiasmant de connaître ce projet-là que tu as pour nous. Et je veux te louer et te bénir pour ce peuple nombreux que tu rassembles aux quatre coins de la terre. Et nous voulons tous ensemble te rendre toute la gloire par nos vies, Seigneur. Amen.